Le petit générique d'Eleven Insiders qui fait danser Nordine Jbari dans ce studio. Bien oui, Nordine va bien, Nordine est là. Avec Silvio Proto, on va parler du derby madrilène qui nous a occupé hier. C'est un nouveau numéro d'Eleven Insiders. Ouais, il est bien là et il est en forme. C'est Nordine Jbari, ça va Nordine?
Vous racontez tout alors. Comme
vous étiez comment pendant le générique?
J'étais comme ça. C'est Proto, c'est avec Silvio. Silvio m'a donné la motivation.
Bon, le week-end a été bon?
Ben oui, très bien, très bien. Quand je fais le championnat espagnol, c'est toujours bien.
Vous avez fait le derby hier avec Gilles Lejeune. On Exactement. Débriefe tout ça dans quelques instants. Silvio Proto n'a pas fait le derby hier, mais il l'a regardé, donc c'est pas mal. Silvio, ça va?
Oui, ça va très bien. Je l'ai regardé en même temps que l'Inter, parce que j'avais envie de voir l'Inter gagner contre Cagliari.
Pas de problème.
Ouais, c'était un beau match à suivre aussi.
On va d'abord, évidemment, se pencher sur les prestations des Belges à l'étranger. Quel est le Belge qui vous a marqué ce week-end, Silvio?
Eh bien, c'est facile, hein, Courtois, qui a été excellent contre l'Atlético. Il a fait 3-4 parades, donc celle où il prend un bout portant là, sur son nez. Waouh, là, j'ai eu mal pour lui sur le shot de João Félix de tout près. Non, Thibaut Courtois, impérial depuis plusieurs semaines maintenant. Tu sais, quand tu as un entraîneur comme Ancelotti qui dit voilà, on a un tout grand gardien, si pas le meilleur gardien au monde. On ne peut pas se tromper.
Homme du match hier, Thibaut Courtois, et c'est bien logique. Nordine, le Belge du week-end.
Je vais choisir Tielemans. Pourquoi? Parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un joueur qui est important pour l'équipe nationale et qui va être important dans le futur. Et comme ces derniers temps, dans les matchs, l'équipe nationale était un petit peu moins bien. Il ne montrait pas ce qu'il avait comme capacité de faire. Avec le match qu'il a fait là... Là, je mets Tielemans parce que c'est un joueur pour le futur de l'équipe nationale. On aura besoin de lui. Ça va être un des patrons de l'équipe nationale au milieu de terrain s'il continue à grandir.
Un petit doublé pour en plus. Son club hein, face à Newcastle pour sa centième, je pense. C'était sa centième avec Leicester, lui qui avait été absent aussi pendant 4 rencontres. Bravo donc à Youri Tielemans. Bravo à Thibaut Courtois, dont on va encore reparler parce que voici venu le moment du résumé de ce derby madrilène entre le Real et l'Atlético.
Allez, c'est parti pour cette rencontre, ce derby entre le Real et l'Atlético avec une première faute. Casemiro à la récupération. Benzema qui a réussi à se jouer de compte d'Angbé Asensio. Le ballon prolongé vers Vinicius, le centre avec Benzema. Oh là 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 là, 15 minutes dans cette première période. Le coup d'éclat, le premier dans ce derby. Karim Benzema, la reprise de volée s'il vous plaît, sur un assist de qui? De Vinicius, c'est le premier moment d'un peu de folie avec ce pressing inattendu de Vinicius. Et voilà le résultat. Carrasco, Griezmann, c'est Griezmann qui s'élance. Oh là là, je la voyais pleine lucarne. Joao Félix. Oh, superbe ce ballon trouvé pour Cunha, la frappe.
Et Courtois.
Et Thibaut Courtois qui en sort encore une. Vous le voyez, les offensives de l'Atleti sont toutes... partie des côtés. Là par contre Pénac, c'est un super coup à jouer, c'est du 4 contre 4 avec Vinicius à l'entrée de la surface. Il ouvre sur Asensio, la frappe pied gauche, c'est 2-0, 57e minute de jeu. Le Real qui fait le break de nouveau sur une perte de balle assimilable à celle de la première période, où vous retrouvez dans une situation intéressante la défense de l'Atlético qui recule et puis le travail de Vinicius. Superbe pour trouver Asensio, Nordine, magnifique.
Oui, incroyable, mais c'est pratiquement un contre. C'est pratiquement un contre du Real.
Hop là, de nouveau Courtois. Impérial, c'est aussi l'un des artisans de cette victoire, Nordine. Succès, 2-0 du Real dans ce derby face à l'Atlético. Le Real est aujourd'hui à 13 points devant l'Atlético.
13 points d'avance, est-ce que le championnat est déjà joué? C'est ma première question, voilà, simplement, Nordine. Est-ce que le Real est parti pour le titre?
Moi, je pense quand même qu'il est bien parti pour le titre, parce qu'Ancelotti a réussi quand même à bien relancer cette équipe. Quand le milieu de terrain du Real Madrid est en forme, avec ses... quand on voit encore Modric, le nombre de kilomètres qu'il a joué, qu'il a couru, et puis le volume de jeu, puis la technique qu'il a, les Kroos, les Casemiro, quand ils sont en forme, franchement... Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le championnat espagnol qui peut les battre. Et puis Benzema, on va voir, parce qu'il est sorti à la mi-temps, donc ça veut dire qu'il a senti une petite douleur peut-être encore. Mais, et Vinicius, qui est aujourd'hui, qui est cette saison, l'homme en forme et l'homme qui déclenche les folies du côté du Real.
Ouais, c'est un régal, hein, évidemment, de le voir jouer, Vinicius. C'est dommage parce qu'on sait que l'un de ses concurrents directs, c'est Eden Hazard. On en reparlera dans quelques instants. Ancelotti nous avait promis qu'il allait jouer au moins quelques minutes. Ancelotti nous a menti. On retient ça, Carlo. En attendant, Silvio, un petit mot aussi sur ce Real Madrid-là. Est-ce que le Real est trop fort ou est-ce que les autres clubs ne sont tout simplement pas au niveau pour l'instant ?
Non, mais il y a des concurrents, mais c'est pas l'Atlético cette année-ci. Je pense que voilà, dans ce match-ci, ils ont éliminé un concurrent pour le titre. Si je ne me trompe pas, Séville fait une grosse saison cette année.
Mais ils les ont battus aussi. Donc.
Oui, clair. J'ai bien aimé ce que vous avez dit en fait en début de match, où dans le top 4, ils ont battu tout le monde, top 5, ils ont battu tout le monde. Mais moi, ce que je trouve que Ancelotti, en fait, au départ, ça n'allait pas terrible. Mais c'était point de vue défensif. Depuis que Fernand Mendy est revenu, tu as de nouveau une base défensive. Carvajal aussi, depuis qu'il est là, c'est plus calme, on prend moins de buts. Thibaut aussi est dans une forme extraordinaire. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut empêcher cette année-ci le Real d'être champion.
On n'est pas encore à la mi-saison.
Non. Non, mais justement, c'est une équipe qui va monter en puissance. Parce que voilà, c'est que la première saison du retour d'Ancelotti, donc c'est normal que voilà, ça doit se remettre en place. Mais ils vont se mettre dans une dynamique après un certain moment où la machine va se mettre en route. Pour moi, hier, l'homme du match, c'est Modric.
Oui, pour moi aussi.
Je suis pas d'accord avec Budweiser qui donne.
Nous, on est contents parce que c'est un Belge, mais oui, c'est vrai que Modric était au-dessus.
Modric, hier, il a été extraordinaire. Et j'ai rarement vu Simeone se prendre une claque tactique comme il a pris ici.
Tactique, oui, mais en fait, ils ont fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire qu'ils ont fait le pressing comme ils peuvent faire l'Atlético. Mais quand je le dis souvent, quand les trois au milieu sont au niveau, il n'y a pas de pressing. Techniquement, ils sortaient toujours du pressing. Et mentalement, c'est dur pour l'Atlético parce que vous pressez bien, ils étaient toujours bien, mais ils s'en sortaient tout le temps. Donc, à un moment donné,
c'est pour ça que je te dis que tactiquement, il s'est pris une claque parce que voilà, Modric au milieu a été extraordinaire, Kroos aussi, Casemiro aussi. Tous les trois, chaque fois en sortie de défense, ils avaient chaque fois une solution. Et après qu'ils avaient le ballon, ils se retournaient et jouaient sur les extérieurs, sur Vinicius. Et bon, il n'y avait rien à faire.
Un Real qui a été réaliste hier, justement. Ils n'ont pas eu énormément de possibilités, ils ont su faire mouche. Par contre, du côté de l'Atlético, le pressing nordine n'a servi à pas grand-chose parce que le Real était très bon. Mais les occasions que l'Atlético a loupées, il y a eu Courtois. Mais quand vous êtes l'Atlético, que c'est un derby, vous devez marquer.
Oui, bien sûr qu'il faut marquer. Il y avait Suarez qui était sur le banc et qui revient de blessure. C'est vrai, mais par exemple, un joueur comme Griezmann, on ne l'a pas vu parce que justement, encore le milieu de terrain, Casemiro, il l'a mangé. Je veux dire, il était toujours dans sa zone. Il l'empêchait de recevoir le ballon. D'ailleurs, il est sorti à la mi-temps. Et ça, c'est compliqué. Après, il faut être honnête de dire que cet axe central est en train de grandir du côté du Real. Militao, dans l'impact physique, c'est costaud. Hein. Dans l'impact physique, et puis à la bas, avec son expérience, sa vitesse, sa relance, non, je pense que c'était assez compliqué. D'ailleurs, vous dites des occasions, oui, mais en règle générale, dans les 20 derniers mètres, l'Atlético n'existait pas.
La montée de Thomas Lemar, notamment à la mi-temps, il y a eu Joao Félix qui est monté. Ils ont apporté en début de deuxième mi-temps, mais ça m'amène aussi à penser aux changements qui ont été réalisés assez tôt finalement. Et celui de Yannick Carrasco, quelle image a-t-il laissé dans ce système à 4 derrière ?
Écoutez, Yannick n'a pas été bon hier, mais pour plusieurs choses. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, vous savez, en Espagne, on le connaît bien, en 1 contre 1, peut-être il est dans les 3 meilleurs du championnat espagnol. Et si vous regardez bien, à chaque fois qu'il avait le ballon, il ne l'a pas eu souvent. À gauche, ils étaient à 2-3 contre lui. Oui. La couverture était là, la double couverture était là. Il n'y avait pas vraiment de mouvement autour de lui. Donc, c'était compliqué pour lui. Et comme je l'ai dit, toute la première mi-temps, dans les 20 derniers mètres, l'Atlético n'a pas existé. Griezmann n'a pas touché un ballon. Ils étaient dans l'impact, le Real était plus fort. Dans la position, le Real était plus fort. Donc, c'est difficile pour Carrasco. Les seuls ballons qu'il a reçus, c'est pour aller dribbler. Ils étaient à 3 contre lui. C'était très compliqué.
Attention que Séville est quand même à 8 points au niveau du Real Madrid, mais qui a quand même, il est vrai, une avance confortable. Parce que quand on regarde le contexte de cette saison, c'est vrai qu'on se rend compte que ce Real Madrid-là est en train de monter clairement en puissance. Un petit mot aussi peut-être sur... est-ce qu'il faut encore en parler ? C'est malheureux, mais sur Eden Hazard, qui n'a même pas joué une minute hier. Tout le monde lui passe devant. Alors Asensio a fait une bonne rencontre, superbe but, une patte gauche incroyable. Mais bon, voilà, moi j'ai envie de lancer le débat aujourd'hui. Est-ce qu'Eden, et j'ai envie d'avoir vos avis, doit partir tout simplement en janvier ?
Mais pour répondre à ça, d'abord, il faut Il faut analyser le coaching d'Ancelotti. Moi, Ancelotti est un grand entraîneur, il n'y a pas de souci. Moi, hier, j'étais déçu. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, vous menez 2-0, il reste 10 minutes, 15 minutes, vous avez Bale et Eden Hazard qui sont sur le banc, qui sont des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Mmh. Bale revient de blessure. Donc à un moment donné, il faut faire du management. Il faut les lancer pour 10 minutes, 15 minutes. Non, il fait rentrer des joueurs comme Rodrigo, qui est un bon joueur, mais qui n'a pas de problème de rythme. Mmh. Il a joué quelques matchs, il était titulaire le match avant. Donc là, je ne comprends pas. Moi, je pense que peut-être que la direction demande à Ancelotti d'embêter un petit peu Hazard pour qu'Hazard parte en janvier. Et que quand le mercato va passer, je pense qu'il va le refaire jouer 10 minutes, 15 minutes. Il ne sera pas titulaire. Hein. Mais moi, je m'en fous de ça. Moi, je veux qu'Eden Hazard, il joue 20 minutes, 15 minutes et qu'il revienne dans le coup. Parce que nous, on doit être un peu égoïste. Il y a la Coupe du Monde aussi. Donc voilà. Est-ce qu'il doit partir en janvier ? Pour moi, non. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que s'il part en janvier, il va être dans une équipe qui le veut, un entraîneur qui le veut, donc il va jouer directement. Ben, malheureusement, il n'est pas prêt pour jouer directement. Donc j'ai peur qu'il aille dans une équipe et qu'il joue titulaire directement et qu'il se reblesse. Mmh. Donc moi, je préfère qu'il reste au Real. Après le Mercato, ce n'est pas possible. Il va jouer des 20 minutes, une demi-heure, et il va se retaper comme ça. C'est ce que moi, je pense.
Comment vous voyez les choses, Silvio ?
Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Vinicius est dans la forme de sa vie. Tu parles de Rodrigo, mais tu ne vas pas faire jouer Eden à droite. Eden, sa position, c'est à gauche, c'est la position de Vinicius. Alors, le truc qu'il doit faire, c'est juste sortir Vinicius et mettre Hazard, et voilà. Non,
c'est ce que je dis hier. Voilà. Hier, à 2-0, à 10 minutes de la fin, tu peux le faire.
Oui, mais il l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, non, mais il a certainement ses raisons aussi. Je pense qu'Eden doit partir. Moi, ça me fait mal au cœur pour le joueur, oui. Il doit partir pour se reprendre du plaisir. C'est pas... Tu sais, quand tu es joueur de foot, même si tu gagnes bien ta vie, tout ça, un joueur comme Eden... Tu sais, c'est quelqu'un qui apporte du plaisir aux spectateurs. J'espère pour lui qu'il trouve une solution pour pouvoir vraiment redevenir heureux, parce que je ne pense pas qu'il est heureux là pour l'instant.
La conclue de ce débat, c'est aussi par rapport au club espagnol. Est-ce que le niveau est un peu moins bon quand on regarde ce qui se passe notamment sur la scène européenne, en Ligue des Champions ? Villarreal s'est qualifié un petit peu au miracle. L'Atlético Madrid, franchement, elles sont passées par la petite porte. Ils sont qualifiés. Séville passe complètement à la trappe. Est-ce qu'on est là à un tournant peut-être dans le foot espagnol? On n'oubliera pas non plus que le Barça, c'est un cataclysme, n'est pas qualifié en Champions League.
Un tournant, non, mais le Real est toujours là, est toujours bien là. Le Barça, bon, on le sait, il faut refaire toute une équipe. Quand vous voyez le Barça jouer contre le Bayern, ben moi j'étais triste, quoi. Je veux dire, on avait l'impression que c'était une équipe... c'est comme si c'était dans un championnat, le premier qui joue contre le 15e. Ils n'avaient pas de possibilité de faire mal au Bayern à aucun moment. Donc là, il y a un chantier énorme, donc ça on le sait. Pour le reste, Séville, c'est une bonne équipe. Hein. Séville, avec un bon entraîneur, tactiquement, c'est pas mal. Lopetegui, il est très bon. Non, Séville est une bonne équipe. Villarreal, c'est parce qu'ils travaillent bien et qu'ils sont en Coupe d'Europe, mais c'est pas le Barça ou le Real. Donc non. Je pense pas que le championnat espagnol est en déclin. Je pense qu'ils sont en train de se réinventer parce qu'ils ont perdu Ronaldo il y a quelque temps, ils ont perdu Messi. Donc tout ça, il faut recréer une atmosphère extraordinaire dans la Liga.
Silvio.
Moi, je trouve que... Allez, je suis pas d'accord avec Nordine. Je trouve que c'est un championnat qui ne fait plus rêver comme avant. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui ont perdu énormément d'argent avec le Covid. Je pense que la gestion n'a pas été optimale de ce côté-là. Ça fait encore rêver le Real. Clairement, aujourd'hui, tu as un joueur comme Haaland. Tu vas aller où en Espagne? Tu peux aller qu'au Real. Tu vas pas aller au Barça. Mmh. Tu vas pas aller jouer à Séville, à Valence, que dans le passé, Valence, c'était top en Europe, hein, Champions League et tout ça. Moi, je m'en souviens que maintenant, ces temps-ci, il n'y a quasiment plus que le Real qui fait encore rêver, et même en Europe.
Un petit mot aussi sur ce qui attend le Barça. Donc, ils sont plus qualifiés en Ligue des Champions. Ouais. Ils ne sont pas encore en Europa League, parce qu'il y a une nouvelle règle, évidemment, cette saison, c'est qu'il y a un barrage en Europa League pour pouvoir y aller. Vous savez contre qui le Barça va tomber ? Ils vont jouer contre Naples. C'est Barcelone-Naples en barrage pour aller dans la phase de groupe de l'Europa League. On verra où sont les priorités des Napolitains.
Voilà, clairement.
Qui sont bien en championnat.
Ouais.
Mais sinon, bon courage au Barça. Hein.
En fait, si Naples met sa priorité dans le championnat, ils vont peut-être laisser tomber l'Europe. Mais d'un autre côté, se farcir le Barça. Tout le monde veut se le farcir le Barça. Tu sais, c'est comme en Belgique, quand tu joues contre Anderlecht, tout le monde veut battre Anderlecht. Donc, je pense que le Barça est dehors, honnêtement. Bah.
Ouais,
s'ils récupèrent leurs joueurs, hein, parce que là ils ont beaucoup de blessés.
Je pense que ouais.
Mais s'ils récupèrent,
je pense que Naples va jouer parce que tu joues le championnat, d'accord, mais un club comme ça il doit être en Coupe d'Europe. Mm-hmm. Donc Naples va jouer et puis le championnat c'est compliqué. Hein.
Ouais, c'est compliqué.
L'Inter de Milan, l'AC de Milan, ils sont là, donc c'est pas sûr que Naples va faire quelque chose en championnat. Naples doit être qualifié pour la Champions League dans le championnat, ça c'est la priorité. Mais ils vont jouer la Coupe d'Europe, surtout contre le Barça qui est pas bien. Moi je pense pour Xavi et le Barça c'est mieux qu'ils soient éliminés. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas l'équipe. Ils n'ont pas l'équipe. C'est un chantier énorme. Et ça va leur mettre la pression pour pouvoir trouver des solutions pour la saison prochaine. Parce que là, comme ça, quand vous voyez l'équipe, ce n'est pas le Barça. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Alors évidemment, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de ceci. Mais ça, c'est des erreurs qu'eux, ils ont faites. Ce n'est pas la faute des autres personnes. Mais il faut acheter des joueurs, il faut trouver des possibilités pour acheter des joueurs, parce que quand on voit cette équipe du Barça, c'est pas un ou deux joueurs qu'il faut, hein. Il faut plusieurs joueurs, hein. C'est ça qui est incroyable.
Et le souci pour l'instant, ce sont les finances aussi. Quelques infos par rapport à ce tirage qui est tombé tout à l'heure. Séville qui va devoir aussi jouer un barrage. Séville qui va jouer contre Zagreb.
Ouais.
La Real Sociedad va jouer contre Leipzig. Et puis ce sera Betis contre... le Zénith. Voilà, ça c'est un petit peu les affiches qui attendent les clubs espagnols. Un petit mot aussi sur le tirage de la Ligue des Champions. Alors je ne sais pas si on a assisté à quelque chose d'inédit tout à l'heure, mais le tirage de la Ligue des Champions nous offrait de belles affiches. Sauf que le tirage va être tout simplement réalisé à nouveau tout à l'heure. Il a été jugé nul, Nordine. C'est un truc de fou ce qui s'est passé tout à l'heure.
Oui, d'habitude ils sont pas mal en organisation, mais là... C'est un petit peu foiré, comme dirait l'autre.
Oui.
Je pense qu'ils ont mélangé des boules dans un pot où il ne fallait pas.
Ouais, alors, officiellement, on nous déclare officiellement 3 erreurs techniques dans ce tirage-là. Alors, il y avait des rencontres prévues.
Est-ce qu'ils ont mis le VAR ? Est-ce qu'ils ont mis le VAR pour voir l'erreur ou pas ?
Ah bien, ils l'ont vu, oui. C'est d'ailleurs Villarreal qui a porté réclamation parce que Villarreal, à un moment donné, était dans ce groupe de Ligue des Champions. On effectue le tirage et puis on tire une boule Manchester United. Et là, on se rend compte... Mais que ces deux équipes ne peuvent pas jouer ensemble parce qu'elles viennent du même groupe de Ligue des Champions. Du coup, Villarreal a porté réclamation parce qu'après, ils se tapent City. Donc voilà, peut-être pour ça. Et alors, dans le même temps, on va encore un petit peu plus loin. Il y a Real Benfica qui a été tiré comme première affiche.
Ouais.
Et le Real demande à ce que son match soit maintenu parce que le tirage a eu lieu avant l'erreur technique. Alors, vous voyez où on en est. Voilà. Bienvenue dans la nouvelle dimension de l'UEFA.
S'il y a des erreurs, on refait tout.
On refait tout. Voilà. Sinon, ça va jouer dans les tribunaux. On va appeler Toto Wolff. On va devenir fou.
Ouais.
Toto Wolff et Mercedes, en lien évidemment avec ce Grand Prix de Formule 1 hier, et Mercedes qui a porté réclamation. Mais c'est bel et bien Max Verstappen. Je ne pensais pas qu'on allait parler de Max Verstappen dans Eleven Insiders, mais au moins c'est fait vous dire en toute transparence que ce podcast est enregistré tip-top à 14h30 et que le tirage va être à nouveau réalisé à 15h. Voilà pourquoi on ne peut pas débriefer des affiches là tout de suite, mais vous savez au moins qu'il y a eu une couille dans le pâté, comme on dit à ce niveau-là, du côté de l'UEFA. Eh oui, c'est une expression des jeunes. Je traîne peut-être trop avec...
Trop vieux ou pas
avec des... Non,
on est vieux, ça veut dire qu'on est vieux peut-être.
Du tout. Merci en tout cas messieurs pour ce chouette débat.
Mais avec plaisir.
Merci à vous.
Au terme de ce derby, il y a de belles affiches qui arrivent encore. Il y a un Séville Atlético, je pense, Nordine. Il y aura un Séville Barcelone. Ça reste encore une affiche.
Bien sûr.
Séville-Barcelone, même si le Barça est un petit peu en difficulté. Tout le programme, vous l'avez notamment sur l'application Eleven Sport que connaît très bien désormais Silvio Proto, puisqu'il a découvert le mode multiscreen pour suivre
plusieurs
matchs en même temps.
Il a pris sa retraite.
Je joue au golf aussi. C'est non négligeable. Ça.
Mais ce débat-là se poursuivra en dehors de ce studio. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.